Connaissances et témoignages.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre écoute, de votre intérêt pour nos émissions sur l'orthodoxie et en union de cœur avec tous. Nous sommes en présence et avec une grande joie du père Jean-Clément Jollet, qui est prêtre orthodoxe à Tours. Père, bonjour.
Bonjour à tous et puis bonjour à tous les auditeurs qui commencent à connaître ma voix et qui commencent à savoir de quoi nous allons parler. Je me réjouis de vous retrouver tous.
Bonjour Didier, qui est
bonjour,
avec moi.
Bonjour François, bonjour
Didier.
Jean-Clément.
Ravi de vous retrouver tous.
Oui, donc vous êtes un habitué maintenant de nos émissions, mais je vous représente quand même rapidement. Donc vous êtes prêtre à l'église, enfin vous officiez à l'église Saint-Grégoire de Tours.
Oui, exactement. Voilà. Je suis recteur de la paroisse Saint-Grégoire de Tours, qui est une paroisse orthodoxe dans le sein de la métropole antiochienne en France. Je dépends du patriarcat d'Antioche, mais voilà, je célèbre. Je suis français moi-même, et puis voilà, donc nous avons une paroisse à Tours.
Et puis musicien à la retraite aussi.
On peut dire ça comme ça. Alors je ne sais pas si un musicien peut être à la retraite, mais voilà. Mes fonctions pédagogiques à l'université de Tours et avant au conservatoire, en effet, sont suspendues par la retraite, ce qui me laisse un petit peu plus de temps pour répondre à vos questions, entre autres.
Alors donc nous allons continuer notre partage sur le baptême.
Oui, ça c'est un très bon sujet, oui.
Nous avons pensé peut-être commencer par faire le lien avec le baptême du Christ. Il y a eu la fête de la Théophanie récemment, et ça peut être une occasion.
Exactement. Donc, si vous voulez, donc la fête de la Théophanie, alors je pense qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est une petite différence avec nos amis catholiques. Dans un premier temps, alors là je remonte à l'Antiquité chrétienne, il y avait une seule commémoration de Noël et de l'Épiphanie, de Noël et le baptême du Christ, enfin une seule commémoration au début du mois de janvier, donc le 6, puis ensuite, pour des raisons sur lesquelles je vais parvenir maintenant, les deux fêtes ont été séparées, Noël le 25 décembre, et donc on a gardé le 6 janvier comme fête du baptême du Christ. Alors, pour nous les orthodoxes, il y a une différence avec l'épiphanie catholique. La signification du mot épiphanie et théophanie est à peu près similaire. Théophanie, ça veut dire la manifestation de Dieu, la manifestation de Dieu, on va y revenir. Épiphanie, c'est également le sens de la manifestation. Alors pour nos amis catholiques, l'épiphanie, c'est avant tout, et uniquement je crois, la visite des mages. Donc, si vous voulez, l'enfant qui vient de naître est reconnu déjà et manifesté aux mages. Voilà, je crois que c'est bien différent chez les orthodoxes, chez les orientaux en général, mais chez les orthodoxes en particulier, parlons de ceux que je connais un petit peu mieux, à Noël, déjà, les mages sont venus. Les mages ont adoré. Donc il y a eu une première manifestation assez discrète, c'est vrai, comme on l'a déjà dit une fois, dans cet enfant qui vient de naître très discrètement au milieu de la nuit. On en reparlera, si on parle tout à l'heure, de l'entretien avec Nicodème, par exemple, qui est lié à tout cela. Et donc voilà, les mages sont déjà là. Et pour être plus léger, on devrait partager la couronne des rois, le gâteau des rois, non pas le 6 janvier quand on est orthodoxe, mais le 25 décembre. Ceci dit, on est en butte aux pâtissiers qui en sont encore au bûche et pas encore aux galettes des rois. Voilà, ça c'est juste pour l'anecdote. Par contre, nous, le 6 janvier, ce n'est pas la manifestation avec les mages, mais la manifestation de Dieu trinitaire. Et ça, c'est un point absolument essentiel. C'est très différent. Donc, la théophanie pour nous, c'est le baptême du Christ au Jourdain par les mains de Saint Jean-Baptiste. On va peut-être en redire un mot. Et par là, se manifeste pour la première fois dans l'histoire, j'allais dire, de Jésus-Christ, ayant revêtu notre nature humaine, la manifestation trinitaire par l'Esprit-Saint et la voix du Père qui en rend témoignage. Et ça, donc, c'est une différence fondamentale sur le contenu même de la manifestation. Donc voilà, première manifestation trinitaire, bon, il y en aura d'autres, bien sûr, mais on le voit bien sur l'icône, où on voit le Christ qui est debout dans le Jourdain. Par sa présence, il renouvelle complètement la nature, non, pas la nature humaine, bien sûr, la nature, le cosmos, la terre entière est renouvelée à ce moment-là. Et on entend la voix du Père, et puis on voit également donc comme une petite flèche blanche qui descend, c'est donc la manifestation de l'Esprit Saint aussi. Première manifestation trinitaire, grande fête donc de la théophanie, qui passe donc par la bénédiction des eaux qui, dans chaque église, revêtent quelque part la même vertu que les eaux du Jourdain, à savoir que l'eau qui est bénie, que le prêtre va bénir maintenant, en général, ça se fait la veille au soir dans les monastères, et quand on n'a pas la possibilité de célébrer, on le fait comme dans nos paroisses, la mienne en particulier, mais dans toutes les paroisses, à l'issue de la liturgie ce jour-là. Et donc, voilà, que cette eau, alors il y a une longue bénédiction en demandant que cette eau retrouve le sens que nous avons reçu nous-mêmes au baptême et soit pour nous source de régénération, c'est-à-dire nouvelle génération, source de renouvellement, comme le Christ l'a renouvelé au Jourdain. Donc c'est la même vertu de l'eau du Jourdain qui est appelée par le prêtre à l'Esprit Saint à ce moment-là dans nos paroisses. Et ensuite, donc, chacun est invité, d'abord le prêtre bénit généreusement en général, avec beaucoup de, comment dirais-je, celle-là aussi c'est un tout petit peu assez pittoresque, où le prêtre, généreusement, mouille un tout petit peu l'église, et puis tout le monde avec, non pas un goupillon, parce que ça n'existe pas chez nous, voilà, quelque chose d'un tout petit peu particulier, qui se prolonge avec un peu comme un petit balai, si vous voulez, mais le terme est mal choisi, et donc voilà, on bénit tout le monde, et ensuite, donc, chacun boit un peu de cette eau, ce qui est tout à fait normal, et on porte chez lui pour bénir les maisons. Ça, c'est très important. C'est donc la signification que la maison elle-même, où nous allons vivre maintenant, est bénie par l'aspersion de l'eau bénite, donc, et la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, avec la même signification que ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que cette nature entière est renouvelée, et l'eau, par là, j'allais dire, redonne vie, redonne espoir, redonne une foi vive aux gens qui habitent la maison et à la maison elle-même.
Oui, il faut souligner, parce que c'est vraiment important de mon point de vue, que l'Esprit Saint s'infuse dans l'eau.
C'est très important. Vous avez raison de le signaler, François. Les pères de l'Église ont insisté là-dessus. Tout à fait, l'Esprit Saint descend dans l'eau en même temps que le Christ est dans le Jourdain. C'est bien ça le sens même de la manifestation. Et donc, c'est comme ce souffle au début de la création qui planait sur les eaux. Il faut voir le parallèle à ce moment-là. Et c'est ce même Esprit Saint, le souffle, évidemment. Pour nous chrétiens, c'est le souffle de l'Esprit. C'est la façon dont s'exprime l'Esprit Saint dans notre création, en tout cas dans ce qu'elle a de visible. Ce souffle divin qui planait sur les eaux à la création, cette fois-ci, il est carrément sur les eaux et dans les eaux. Donc, il y a le rappel de la création initiale. C'est ce que nous disent les saints-pères en disant cela, à savoir que la nature entière, le cosmos, prenons la nature en particulier, l'eau, donc, absolument, est totalement parfaite. La nature est totalement parfaite, comme l'homme est né parfait dans ce paradis terrestre qui a bien existé, hein, je crois, et auquel nous devons chaque fois tenter de revenir avec nos faiblesses, malheureusement, en courbant un tout petit peu l'échine. Je crois que la confession est importante là-dedans. Mais voilà, pour nous montrer encore une fois que la nature est un don de Dieu, que la nature est bénie par Dieu, qui envoie son Esprit Saint dès la création, et encore plusieurs milliers d'années après, quand le Christ lui-même vient s'y faire baptiser. Il y a donc l'union quelque part, l'union absolument magnifique, mystérieuse, absolument mystérieuse, de la Trinité. Encore une fois, je donne toujours cet exemple. Quand nous, les orthodoxes, nous signons, c'est vrai que nous allons, nous signons d'abord sur le front, sur le corps, à droite puis à gauche. Alors, le sens même n'est pas important là-dessus. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous réunissons nous-mêmes les trois premiers doigts de la main droite, pour faire le signe de croix, pour bien montrer cette union parfaite de la Trinité consubstantielle et indivisible. On le dit dans le credo, j'allais dire, oui, puis on le dit très souvent, c'est bien ça. Une unité parfaite qui est donc manifestée, là, par l'Esprit qui descend dans l'eau, qui infuse dans l'eau, le mot est tout à fait exact, vous faites bien de le dire, parce que le Christ y est lui-même. C'est ça qui est important. Voilà, j'allais dire, l'Esprit Saint, quelque part, rejoint le Christ pour sanctifier l'eau. Et la voix du Père en rend témoignage.
Oui, oui, c'est vraiment très, très, très important et d'en prendre conscience, parce qu'il ne s'agit pas d'un acte qui serait seulement un symbole, mais véritablement d'une présence.
Ah, c'est ça, un acte. C'est ça, une présence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous-mêmes orthodoxes, quand nous baptisons quelqu'un ou quand on a été baptisé nous-mêmes, aussitôt, on reçoit, comme disent certains prêtres, le baptême dans l'esprit par la chrismation. Aussitôt après, puisque quand on se baptise, c'est un renouvellement quelque part de une nouvelle action du Christ et de l'Esprit Saint dans l'eau. Donc quelque part, nous reprenons à notre compte le baptême du Christ au Jourdain, et donc juste après, nous recevons le baptême par l'Esprit Saint qu'on appelle la chrismation, l'équivalent de la confirmation catholique, alors qu'il ne se fait pas par un rite d'adolescence, mais vraiment tout de suite après, dans la foulée du baptême, dans le même cérémonial, le même rituel, on est baptisé aussi par l'Esprit. Ça vient de là, ça vient de cette union au moment du baptême du Christ dans le Jourdain, cette union parfaite du Christ qui renouvelle la nature qui est donc qui revêt à ce moment-là un visage parfait, et l'eau dans laquelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait exact, l'Esprit Saint infuse. C'est très important ça pour nous.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'entretien avec Nicodème.
Tout à fait.
On peut y voir ce lien, Jésus qui dit il faut naître d'en haut.
Voilà,
naître
vous avez
d'eau
raison.
Et d'esprit.
Alors, moi j'aime beaucoup l'entretien avec Nicodème. Pourquoi ? Parce que c'est un peu mystérieux. D'abord, j'ai le texte sous les yeux. Ça se passe la nuit, figurez-vous. Alors ça, évidemment, on n'en parle pas beaucoup parce que l'entretien est tellement, tellement fort, tellement riche. Au début du chapitre 3 de Jean, il vient trouver Jésus pendant la nuit. Alors, pourquoi la nuit ? Encore une fois, je crois qu'il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. Peut-être de manière pratique, parce que Nicodème souhaitait rester discret dans sa démarche de conversion, par rapport à sa vie professionnelle sans doute, à son entourage, on ne le sait pas très bien. C'était un notable parmi les Juifs, et pourtant, il vient, il a un doute, au véritable sens du mot, au sens spirituel, un doute qui pourrait lui faire croire que ce Jésus qu'il attend, lui qui est notable, c'est peut-être lui qu'il attend. Et ça, c'est une rencontre qui se fait discrètement, mais pas que. La nuit, d'abord, rappelons-nous que le Christ est né la nuit. Là aussi, la nuit, c'est toujours une nouvelle naissance. C'est comme la résurrection. Ça se passe la nuit, et c'est une nouvelle naissance à chaque fois. Très important, ça, pour nous. Et justement, dans l'entretien avec Nicodème, c'est bien ce qui se passe, que lui dit le Seigneur. Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Alors naître d'en haut, c'est bien cela. Là aussi, encore une fois, si on explore un tout petit peu les réflexions des pères à ce sujet, c'est dans la nuit que nous voyons la lumière, et c'est donc en recevant, en naissant d'en haut, c'est ce qui nous est donné aujourd'hui quand on parle du baptême du Christ, que nous recevons vraiment la lumière. Et en effet, l'expression terrible « hors de l'Église au point de salut », bien sûr, ça, je crois qu'il faut l'éliminer, hein, ces mots-là qui sont un peu durs, mais c'est vrai que si on veut être sauvé, ça passe forcément par le baptême. C'est le message à Nicodème, le baptême qui vient d'en haut, ça passe forcément par cette démarche de se présenter, comme le Christ l'a fait à Jean-Baptiste, de se présenter maintenant au Christ, comme le fait Nicodème, et d'en recevoir les saints mystères, les saints sacrements, si vous voulez, notamment de nos jours, parlons clairement du baptême. Donc c'est bien ça que Jésus répond à Nicodème, pour avoir accès au salut, pour avoir accès à ce royaume que tu attends, il faut naître d'en haut, il faut, c'est un appel au baptême, en quelque sorte. Est-ce que je réponds un tout petit peu à votre remarque ?
Oui.
C'est ça, parce que, cette lumière, c'est vrai que le Christ est la lumière qui brille dans nos ténèbres. Et donc, la démarche de Nicodème, qui quelque part est dans les ténèbres, non seulement la nuit, mais aussi la nuit dans sa pensée, dans sa tête, car il cherche la lumière. Comme les Juifs, il cherche la lumière, donc il est dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reconnu, mais lui l'a reconnu. C'est pour ça qu'il va vers lui, parce qu'il se doute ce pourrait être lui, ma lumière. Et que lui dit le Christ, quelque part, viens, suis-moi. C'est-à-dire, pour connaître la lumière, tu dois recevoir la lumière d'en haut, tu dois naître à nouveau. Et chaque baptême est une nouvelle naissance. C'est bien ce qui est important pour nous tous chrétiens. Alors là, je crois que c'est le cas de tout le monde, bien sûr. On est une nouvelle naissance. La preuve, c'est qu'on revêt un bel habit neuf, un bel habit blanc, non encore souillé. C'est une nouvelle naissance à chaque fois. Chaque baptême est une renaissance. Et c'est la réponse du Christ, bien sûr. Naître d'en haut, c'est bien cette renaissance à laquelle Nicodème est invité maintenant. Lui qui a fait la démarche de foi, quelque part, d'aller vers le Christ. Voilà, de revêtir cet habit blanc qui est un habit magnifique, qui nous rappelle, je le disais lors de la dernière émission, je crois, ce vêtement de lumière tellement pur, tellement blanche, que revêt le Christ à la transfiguration, par exemple. Vous savez, quand les apôtres, ils sont que trois, mais quand même, ils ont l'occasion magnifique, unique, cette expérience spirituelle de voir le Christ tel qu'il est vraiment, la lumière pure, impeccable, ça veut dire sans péché, impeccable, lui seul est sans péché, c'est sûr, cette lumière pure, d'ailleurs, eux, n'étant pas sans péché, ils ont été tellement illuminés qu'aussitôt ils se sont couchés par terre, ils n'en ont pas profité, les pauvres, j'allais dire, chaque fois que je médite sur la transfiguration, je me dis, moi aussi, bien sûr, si je voyais le Christ dans sa lumière, voilà, je serais tellement ému, tellement illuminé que je ne serais pas capable de la regarder de près. Et pourtant, cette pureté du Christ, nous y sommes conviés. Nous qui avons été créés à son image, ne l'oublions jamais, cette image pure que nous avons détériorée, voilà, il est de notre fonction, de notre rôle de chrétien, chaque jour, de refaire un pas vers lui, chaque jour de tenter de lui ressembler.
Oui, et puis dans cet entretien avec Nicodème, il y a aussi ce lien avec l'Esprit Saint, puisque les versets suivants où Jésus compare l'Esprit avec le vent.
Voilà, vers la fin de l'entretien, donc la fameuse phrase « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. » Il en est ainsi du souffle de l'Esprit, et ça ramène à ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Cet Esprit Saint qui est le souffle de Dieu, qui planait sur la création, le souffle vivifiant qui plane, j'allais dire, non pas planer d'une manière éthérée, mais voilà, qui celui qui nous vivifie, qui nous donne la vie, le souffle de vie, il vient de là. Le souffle de vie, c'est bien celui de l'Esprit Saint, plane, qui est avec nous, qui est dans le Jourdain, qui nous guide, qui nous donne vie. Tout au long de notre histoire, bien sûr, et l'histoire de tout temps à jamais, dans le vrai sens du terme. Et c'est pour ça, quand le Christ dit « Ne sois pas étonné si je t'ai dit « Il faut naître d'en haut », et donc aussitôt il fait le lien avec l'Esprit Saint, le vent souffle où il veut. Donc, encore une fois, ça montre bien, quelque part, l'élection du chrétien. J'en ai parlé l'autre jour beaucoup à propos du baptême, l'élection du chrétien, à savoir que c'est le vent qui souffle où il veut, c'est lui qui, quelque part, s'arrête sur nous quand on est jugé, non pas digne de suivre le Christ, mais bon, quand on est élu par Dieu, comme le Christ s'est promené au bord du lac, il a choisi ses apôtres. Pourquoi eux et pas d'autres, ça reste dans son grand mystère. Donc, importance évidemment de l'Esprit Saint, importance du baptême, importance de reconnaître quelque part que le Christ a sanctifié l'eau, a sanctifié la nature, dont la nature humaine bien entendu, et l'Esprit Saint continue ce travail perpétuellement. Bien sûr, le Christ, historiquement, a quitté ce monde, il est bien sûr toujours avec nous, et il a envoyé son Esprit pour cela, justement, pour témoigner quelque part de sa permanence dans notre monde.
Le baptême réimprime bien l'image de Dieu dans la personne humaine, Le baptême réimprime l'image d'origine que nous avons en Dieu et la chrismation, qui est l'équivalent de la confirmation chez les catholiques romains, la chrismation restitue la ressemblance.
Oui, François, vous avez tout à fait raison. Absolument. Nous sommes reconstitués, j'allais dire. Nous, c'est une vraie naissance. Nous sommes reconstitués par le baptême à l'image du Christ et l'Esprit Saint qui nous est donné, qui est imprimé en nous par un sceau indélébile. On est marqué du sceau du don de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint nous est donné, et cette marque est indélébile. D'ailleurs, on est marqué sur tout le corps, et le peuple présent, les parents, les parrains, etc. Et tout le monde est dit « Amen » à chaque fois. Ça veut dire « Oui, c'est vrai, cet homme-là, cet enfant-là, cette jeune femme-là est maintenant revêtu du signe indélébile de l'Esprit Saint. » Donc voilà, cette élection dont on parlait, et qui en effet nous invite à travailler sans cesse pour nous rapprocher le plus possible de ce que Dieu attend de nous, à être à sa ressemblance, tel que nous avons été créés.
Le baptême donc réimprime bien en nous aussi, dans la vie du Christ, ce qui est le centre, central, c'est-à-dire sa passion et sa Pâque.
Voilà. Et justement, quand à la fin du baptême, bon, ce n'est pas vraiment dans le rituel, mais ça se fait à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui offre une croix. Alors la croix, c'est joli, c'est un joli bijou, ça se porte bien autour du cou. Mais que dit le prêtre en bénissant la croix et en la remettant au nouveau baptisé? Il rappelle ce que disait l'évangéliste, « Celui qui m'aime, qu'il prenne ma croix et qu'il me suive. » Ou qu'il prenne sa croix, je dis parfois dans les deux formules exprès, « et qu'il me suive. » Être chrétien, aller à la ressemblance de Dieu, c'est difficile, c'est exigeant. Si, encore une fois, on se fait baptiser pour faire plaisir à la grand-mère, ça peut être digne, ça peut être respectable, mais vous savez, c'est la graine qui pousse sur de la pierre. Il n'en restera rien. Être baptisé, ce n'est pas un gage de salut à tous les coups. Voilà. Le texte à Nicodème, de Nicodème dit, en effet, il faut passer par le baptême, mais ça ne suffit pas. Si l'héritage qu'on a reçu, on le laisse périr sur un bord de route, si on oublie qu'on a été baptisé, voilà, c'est pas un médicament, quoi. C'est pas un gris-gris que l'on reçoit pour se protéger. Non, alors là, ça suffit pas du tout. Là, on se trompe complètement. Bon, moi, personnellement, je ne refuse jamais un baptême, parce que c'est toujours une chance qui est donnée aux nouveaux baptisés. Voilà, je ne refuse jamais un baptême. Je vois pas à quel titre je pourrais le refuser, sauf si quelqu'un a déjà été baptisé à l'église catholique, par exemple, bien sûr. C'est autre chose. Mais là, si on me dit, voilà, je veux baptiser mon enfant, bon, j'accepte à tous les coups. Je fais une petite catéchèse là-dessus en disant, justement, qu'un baptême n'est pas un gage pour, mais voilà, c'est une chance qui est donnée. Et en effet, un chrétien, s'il ne croit pas à la résurrection, comme dit saint Paul, eh bien, il n'est pas chrétien. Ça, c'est très important. Mais pour croire à la résurrection, il faut porter sa croix. Il faut aider le Christ à porter la sienne. Et soi-même, donc, il faut être vaillant pour savoir porter la sienne avec conviction. Puis, cette espérance magnifique que nous seuls chrétiens avons, c'est l'espérance de la résurrection. Cette nature déchue, elle a été purifiée par le Christ et par l'Esprit Saint et la voix du Père au Jourdain. Et notre nature déchue, elle va être purifiée le jour de notre résurrection. Et ça, c'est une grâce magnifique, une grâce de Dieu qui nous est donnée, pour laquelle on a été choisi, je le disais tout à l'heure, qui nous est donnée, et ça, on aurait bien tort de ne pas la saisir. On aurait bien tort de passer à côté de cette grâce magnifique. Et quelle est la réponse à la grâce? C'est la foi qui nous est demandée, tout simplement. La foi, la fidélité, c'est le même mot. La foi en Dieu, la fidélité en ses préceptes au sein de l'Église, encore une fois.
Parce et les œuvres.
Il a été donné au sein de l'Église.
Toutes les œuvres qui sont à accomplir, et il y en a beaucoup. Enfin, chacun a ses charismes et ses capacités en Dieu, mais il y a du travail.
Oui, oui, mais c'est ça qui est exaltant. Remercions Dieu. C'est exaltant qu'il y ait du travail. Ça nous oblige à nous remuer, ça nous oblige à bouger. Rien n'est jamais acquis. Et ça, c'est une... Voilà. Et Je remercie le Seigneur pour ça. Rien n'est jamais acquis, ça serait trop facile.
Merci, Père Jean-Clément. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions toutes les auditrices, tous les auditeurs pour leur fidélité, pour leur intérêt pour nos émissions et pour leur présence. Merci à toutes et à tous, en union de prière et de cœur avec tous. Merci Père Jean-Clément.
Merci, grande joie pour moi de parler un tout petit peu avec vous et d'échanger de manière aussi libre et aussi généreuse. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et que sa bénédiction au Jourdain descende sur chacun d'entre nous.
Amen.